VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Le dialogue entre Washington et Pyongyang a permis de vrais progrès vers l'organisation d'un sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui doit recevoir aujourd'hui un courrier du dirigeant nord-coréen. On va dans la bonne direction, a assuré hier le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, au terme de 2 jours de réunion à New York avec le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Yong-chol, le plus haut dirigeant nord-coréen à se rendre aux États-Unis depuis 18 ans. Le secrétaire d'État a assuré que les discussions avaient également progressé dans la zone démilitarisée à la frontière entre les deux Corées, où des équipes des deux pays préparent l'ordre du jour du sommet, et à Singapour, où sont en cours également des échanges sur la logistique de la rencontre censée se tenir, si elle a bien lieu, le 12 juin dans la cité-État asiatique. Les États-Unis ont imposé à l'Union européenne, au Mexique et au Canada d'importantes taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium. À partir d'aujourd'hui, Washington met en place des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. L'Union européenne et le Mexique promettent des représailles. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, l'économiste Sylvie Matelli.
On est toujours dans cette logique de Washington de pousser les Européens, les Canadiens, les Mexicains à aller dans la direction où souhaitent les faire aller les États-Unis. Donc ce qu'il faut en conclure, c'est que finalement, les partenariats traditionnels, les ententes traditionnelles, les alliances traditionnelles n'ont pas grande de valeur pour l'administration américaine qui est aujourd'hui en place. On peut punir ses plus proches alliés, c'est pas très grave, et puis on va s'entendre avec des pays qui, à la base, sont considérés plutôt comme des concurrents, voire comme des menaces. Et pourquoi les États-Unis font ça? Eh bien, très probablement parce qu'ils ont tiré la conclusion qu'au fond, ce sont des pays calmes, entre guillemets. Ce n'est pas des pays qui vont imposer des rétorsions. Ce n'est pas des pays qui sont très dangereux pour les États-Unis. Donc, on tape et puis on attend de voir ce qui va se passer, mais on n'a pas trop de crainte quant à ce qui pourrait se passer en termes de rétorsions.
Est-ce que c'est une stratégie qui va payer pour Washington? Parce que le secteur de l'automobile va aussi être atteint.
Ça, l'avenir nous le dira. Moi, je crois que c'est pas la bonne stratégie, mais quelque part, ça peut fonctionner aussi, hein, et on peut se tromper aussi. Si les Européens sont pas unis pour réagir, si les Européens ne se positionnent pas, si les Canadiens ou les Mexicains ne se positionnent pas et ne s'opposent pas à ces mesures, les Américains auront tout gagné en réalité. Ils auront taxé l'acier, il y aura aucune, donc, protéger ce secteur aux États-Unis, avec des conséquences qui seront relativement mineures pour leur économie. Alors, encore une fois, tout est relatif, puisque si le président Trump évoque ensuite, après l'acier, la question de l'automobile, c'est parce que bien évidemment, le secteur automobile américain va souffrir de ce protectionnisme sur l'acier et que finalement, le président américain se dit, mais qu'à cela ne tienne.
Est-ce que l'Union européenne a les moyens de répondre à ces mesures de Washington? Quels sont les produits américains, par exemple, qui souffriraient?
On avait parlé des Harley-Davidson et beaucoup avaient rigolé, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble de secteurs d'activités qui peuvent être touchés et choisis par l'économie européenne. L'Europe est le premier partenaire commercial des États-Unis et vice-versa. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Europe en dehors des pays européens en tant que tels. Donc bien évidemment, quand on a des relations commerciales aussi importantes, des mesures de protection peuvent faire du mal des deux côtés et les deux parties ont les armes pour se protéger.
L'économiste Sylvie Matelli, jointe à Paris. Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption, a été renversé ce matin par le Parlement, qui a dans le même temps accordé sa confiance au socialiste Pedro Sanchez. La motion de censure contre le dirigeant conservateur, qui est resté au pouvoir plus de 6 ans, a été adoptée à 9h30 GMT, avec comme prévu une majorité de 180 députés sur 350. En Italie, le gouvernement Conte investit cet après-midi. Le premier ministre italien désigné Giuseppe Conte a nommé son gouvernement jeudi, avec au poste clé les chefs des deux partis soutenant son gouvernement de coalition. Le secrétaire fédéral de la Ligue, Matteo Salvini, sera ministre de l'Intérieur, tandis que le dirigeant du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, prendra la tête d'un nouveau ministère renforcé combinant les portefeuilles de l'industrie et du travail. Salvini et Di Maio seront tous deux vice-présidents du Conseil italien. Le djihadiste tunisien Sofiane Ayari, complice de la cavale de Salah Abdel Salam, est déjà mis en cause pour les attentats de novembre 2015 à Paris, a été inculpé dans l'enquête sur les attaques du 22 mars 2016 à Bruxelles, a annoncé aujourd'hui le parquet fédéral belge. Ayari, arrêté le 18 mars 2016 à Bruxelles, en même temps qu'Abdel Salam, a été inculpé hier pour participation aux activités d'une organisation terroriste, a précisé le parquet dans un communiqué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dans la capitale américaine, il est 7h05. Jean-Roger Billon à ce micro. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi va entamer samedi un nouveau mandat de 4 ans en pleine vague d'arrestations d'opposants qui reflète, selon des experts, les craintes du pouvoir face à de possibles mouvements sociaux. Après avoir été réélu avec plus de 97% des voix en mars, face à une opposition réduite au silence, M. Sissi, élu une première fois en 2014, prêtera serment devant le Parlement. Parmi les opposants et membres de la société civile arrêtés dernièrement figurent le blogueur et journaliste Wael Abbas, les blogueurs Sherif Gabay, Shadi Abou Zeid ou encore l'opposant Azem Abdel Azim. Dialogue politique au Burkina Faso, le pays des hommes intègres à l'école du Danemark. Des parlementaires burkinabés ont séjourné à Copenhague du 12 au 19 mai. Ils viennent de remettre leurs observations au président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. L'opposant et ancien ministre Ablassé Ouédraogo faisait partie de la délégation. Il souhaite l'implication du président burkinabé.
Il faut travailler à ce que le dialogue politique au Burkina Faso devienne une réalité. Il faut restaurer la confiance entre les burkinabés et le chef de l'État, de par ses prérogatives constitutionnelles, étant le garant de l'unité nationale. Nous l'avons rencontré et le chef de l'État s'est engagé à aller de l'avant. Il a indiqué sa disponibilité donc à accompagner le processus qui est, j'allais dire, lancé. Et je pense que l'étape de Copenhague aura été d'une grande utilité pour la restauration d'une confiance, la restauration d'un respect des prix au Burkina Faso.
Ablassé Ouédraogo de l'opposition au Burkina Faso. Un tribunal correctionnel de Dakar a mis jeudi en délibéré au 19 juillet son jugement au procès de 29 djihadistes présumés poursuivis pour des faits de terrorisme. La défense a clôturé ses plaidoiries jeudi. Elle a demandé l'acquittement des 29 prévenus, dont 3 femmes poursuivies pour actes de terrorisme par menace d'attentat, association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, apologie du terrorisme et détention d'armes sans autorisation. Les prévenus qui se sont exprimés ont tous rejeté les accusations à leur encontre. Au Burundi, le oui a été sans surprise confirmé comme résultat définitif du référendum du 17 mai dernier par la Cour constitutionnelle à plus de 73% des suffrages. L'opposition burundaise dénonce une Cour constitutionnelle au service du parti présidentiel, tout comme la CENI. Micro-trottoir à Bujumbura.
On a voté oui au lieu de non parce qu'on a pu de près ça ici, sur le pouvoir actuel.
Moi, je vois rien de surprise parce que avec la CENI actuelle, je pense qu'il ne pourra pas y avoir de changement parce que c'est l'outil du gouvernement, la CENI.
Les membres de cette cour ont été nommés par le président de la République. Comment est-ce qu'ils peuvent dire que le président de la République a perdu? C'est impossible.
Ils sont nommés par le gouvernement. Alors, la plupart des gouvernements, c'est ça, les participent dans ce parti politique, à l'ensemble du FDD, alors qui est proposé de changer sa constitution, raison pour laquelle ça ne me tient pas. Bien sûr qu'il m'a déjà même table en partageant quelques biens de l'État.
Non, c'est une cour constitutionnelle, c'est comme un service d'autorégulation. Ça devrait être ainsi, il devrait prendre du temps, mais vu que le oui a gagné plus de 70%, même on pourrait ajouter plus d'autres encore.
Des Burundais se prononçant sur le référendum constitutionnel. Une visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en République démocratique du Congo est prévue en juillet, a indiqué hier sa représentante spéciale à Kinshasa, Leila Zerougui. Le Conseil de sécurité a renouvelé en mars pour un an le mandat de la MONUSCO avec pour priorité la protection des civils et l'appui aux élections prévues le 23 décembre 2018. Ces élections doivent organiser la succession du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Une partie de l'opposition l'accuse de vouloir briguer un troisième mandat. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Un nouveau journal avec Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.